l'original.
Radio.
Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde. Alors, on est bien mardi 29 septembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va avoir une grosse émission, encore une fois. Évidemment, c'est l'actualité qui nous fournit du stock sans arrêt. Là, il y a eu un point de presse de la mairesse de Montréal et de la directrice de la santé publique. Là, on invite les gens à se comporter comme du monde, à prendre des précautions. On va revenir aussi sur ce qui se passe à Québec. Moi, Radio E, je l'écoute pas, donc... Je vais pas faire semblant d'analyser le contenu, mais on va juste parler du grand concept là, d'avoir la Ville de Québec qui retire ses publicités de Choix Radio X. On va joindre tout de suite notre invité, Tariq Yassar Rejevitch. Moi, sacrément, j'ai raté mon coup un matin. Là. Monsieur Yassar Rejevitch, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Excusez-moi de saboter votre nom de famille. Je l'ai pas pratiqué avant d'aller en Onde. Je suis désolé. Alors, il est porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. On voulait faire une mise à jour de ce qui se passe. On s'est parlé à quelques reprises. Et d'abord, la nouvelle du million de morts causée par la COVID-19 dans le monde, ça frappe l'imagination.
Oui, tout à fait. C'est un chiffre symbolique qui est assez triste parce que derrière chaque il y a une histoire personnelle. Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé leurs proches. Beaucoup d'entre ces gens sont morts tout seuls, sans pouvoir vraiment dire au revoir. Donc évidemment, c'est une tragédie, mais ceci ne devrait pas nous arrêter. Ceci devrait nous encourager en fait à travailler encore plus parce que on sait que on peut combattre cette pandémie. On a des signes positifs. Tout ce qui est la recherche pour les vaccins. Hier, on a fait une annonce sur les tests rapides. Donc, on espère avoir des plus de nouvelles positives. D'ici là, il faut vraiment mettre en place des mesures qu'on connaît efficaces pour réduire la transmission du virus et surtout réduire la mortalité due à COVID-19.
Bon, M. Yassar Rejevitch, vous avez, l'OMS a promis hier 120 millions de tests COVID-19 rapides. On parle de 5 $ environ là pour chaque test pour les six prochains mois aux pays les plus démunis. Est-ce que c'est possible? Parce que là, faut financer cette promesse-là.
Oui, on croit que c'est possible. On croit que la solution, c'est la solidarité. On croit qu'il faut qu'on travaille ensemble pour assurer que ces outils tels que les tests rapides diagnostiques ou les vaccins qu'on aura bientôt, on l'espère, pourront vraiment être accessibles. Tout d'abord, qui en ont besoin le plus. Donc, on a fait des accords entre différentes organisations pour s'assurer à ce qu'il y ait 120 millions de tests rapides qui seront donnés à des pays moins développés pour qu'ils puissent effectivement savoir où se trouve le virus, parce que dans beaucoup de ces pays, il n'y a pas de capacité de laboratoire et donc on ne sait pas nécessairement où se trouve le virus. Donc, ce test rapide dont les résultats sont disponibles en 15-20 minutes, vont aider vraiment les autorités sanitaires à tester les gens rapidement, à savoir où se trouve le virus et essayer vraiment d'interrompre les chaînes de transmission. Mais encore une fois, il faut qu'on travaille tous ensemble pour s'assurer à ce que cet outil, comme on l'a fait avec le test rapide, il faut faire la même chose avec le vaccin, qu'on aura bientôt, on l'espère, pour qu'il puisse être accessible à ceux qui ont besoin le plus, à savoir les groupes les plus vulnérables dans tous les pays du monde.
Alors, sans dépistage, c'est impossible de connaître la vraie image de la pandémie.
Oui, effectivement, sans dépistage, on est dans le noir. On ne sait pas où ce qu'il faut faire. Donc, on a répété ce message depuis le début de cette pandémie, dépister autant que possible pour essayer d'arrêter les chaînes de transmission et de se de ce point de vue, éviter les confinements qu'on a vu faire un grand dommage à des sociétés à travers le monde. Donc, on sait que le virus qui cause COVID-19 se transmet à des petits foyers de transmission. Donc, au lieu de mettre toute une nation au confinement, si on sait où se trouve cette transmission, donc on peut agir localement, de manière ciblée, et pas vraiment aller avec des mesures vraiment radicales qu'on a vu faire tant de dégâts.
Bon, c'est important ce que vous dites, Monsieur Jazarevic, parce que ici au Québec, hier, le premier ministre a annoncé une espèce de reconfinement, mais par secteur économique et par région affectée. Il y a des régions du Québec là, qui sont au niveau rouge, et là, il y aura reconfinement des restaurants, des bars. Donc, on suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en faisant ça?
Oui, effectivement. Donc, c'était ça l'idée depuis le départ. Et donc, ce qu'on disait depuis le départ, du moment où on sait où se trouve le virus, on peut agir vite, on peut isoler les gens qui sont infectés, suivre ceux qui ont été en contact proche avec ces personnes infectées, et de cette manière, vraiment, essayer de confiner le virus et pas confiner la population. Donc, on espère que ces outils, comme les dépistages, les tests de dépistage rapides, vont encore plus aider les autorités à savoir où se trouve le virus et faire vraiment des mesures et des interventions ciblées de manière géographique et qu'on peut arriver à des résultats beaucoup plus rapidement de ce fait.
Mais là, on constate, là, il y a des éclosions tout à coup en Europe. Là, on voit en France, il y a des milliers de cas. Après, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, cette vague, là, cette deuxième vague qu'on connaît ici en Amérique du Nord, ça commence à ressembler à un tsunami. Là. On dirait que c'est une vague sans fin qui se renouvelle sans arrêt. Sans vaccin, on ne pourra jamais l'arrêter.
Mais nous, on ne parle pas tellement de deuxième vague à l'OMS parce qu'on est toujours dans cette vague de COVID-19. Les pays qui ont introduit des mesures de confinement ont ralenti la transmission du virus, mais elles n'ont pas arrêté. Et donc, dès qu'on a lâché la prise, et on comprend très bien, on est tous fatigués, les sociétés subissent une perte économique incroyable, les gens ils veulent reprendre leur vie, on veut tous essayer d'avoir une vie telle qu'on la connaissait avant. Mais on voit tout de suite que le virus va exploiter ça, et le virus, il est pas très intelligent, il cherche une personne qui est très proche de la personne infectée pour aller ailleurs. Donc, si on fait tous ce qu'il faut faire, donc pour l'individu, essayer vraiment de garder les distances, de porter un masque, d'éviter les endroits où il y a beaucoup de monde, les endroits qui sont cloisonnés, et si les autorités vraiment essayent de savoir où se trouve le virus et si elles font les interventions ciblées dont on a déjà parlé, je crois qu'on peut faire. Et on a des exemples des pays qui ont fait très bien et que en attendant les vaccins, on peut utiliser ces mesures de vraiment de santé publique de base pour ne pas aller de nouveau vers les confinements radicaux.
Dites-moi une chose, M. Jazarevic, il y a présentement des complotistes, des tenants des théories de complot, des conspirationnistes qui remettent en question toutes les consignes de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'ils représentent un danger pour la santé publique?
C'est un danger depuis le départ, malheureusement. Ça n'a pas commencé depuis quelques semaines. Ça a commencé dès le départ avec l'apparition des réseaux sociaux et l'abondance de l'information. On a vu qu'il y avait une abondance de désinformation, d'une information qui est fausse et qui est propagée des fois de manière consciente, des fois de manière inconsciente. C'est pour cela qu'on a dû donner un nom, c'est l'infodémie, et que on essaye de travailler avec les gouvernements, mais aussi avec les sociétés comme les plateformes des réseaux sociaux pour essayer de minimiser l'impact de ces activités tellement néfastes, parce qu'on sait que les informations qui, comme les théories du complot ou les informations spectaculaires, se propagent beaucoup plus vite que les informations crédibles de santé publique. Et c'est à nous tous de combattre ça. Nous, de notre côté à l'OMS, on a organisé des conférences et une série de réunions avec tous les acteurs pour essayer vraiment de voir comment combattre ça.
Alors, comment combattre cette désinformation? Est-ce qu'on doit la censurer?
C'est à nous tous d'agir. Donc, nous, on travaille, par exemple, avec toutes les plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Google et autres, pour que l'information crédible apparaisse en premier lieu, qu'on essaye de supprimer les fausses informations. Mais évidemment, c'est un travail qui est tellement difficile. C'est aussi aux autorités nationales de promouvoir les informations émanant du ministère de la Santé et de travailler avec les acteurs au niveau national. Donc, on a tous un rôle, mais en tant que individus, on a tous aussi un rôle à vraiment réfléchir avant de partager les articles qu'on trouve fantastiques et poser la question, bien cette information, quelle est la source? Est-ce que c'est une source crédible?
En conclusion, quel pays vous inquiète présentement?
Oui, on voit que beaucoup de pays connaissent une transmission assez intense. L'Inde, les États-Unis, Brésil sont les pays qui, depuis des semaines et des mois, connaissent le plus grand nombre de cas confirmés. Ceci dit, dans d'autres pays, on a aussi résurgence de virus, comme on a vu aussi en Europe, en Moyen-Orient. Donc vraiment, il n'y a pas une seule partie du globe qui n'est pas touchée. Nous, on aimerait bien se focaliser sur les pays qui ont vraiment fait un bon travail. Il faut mentionner Thaïlande, il faut mentionner Uruguay, Pakistan et d'autres pays qui ont vraiment, en ayant des systèmes de santé assez forts, ont pu vraiment essayer de combattre et de réduire la transmission et réduire les risques d'exposition au virus.
Fort ou sévère ou autoritaire?
Ce qu'on dit à l'OMS, c'est que voilà, il faut essayer de trouver où se trouve le virus. Il faut essayer de savoir où sont les gens malades, qui ont été les contacts, et après essayer vraiment d'isoler le virus du reste de la population. On pense que chaque société est en mesure de faire ça, quel que soit le système qui est en place.
Bon, et la Chine qui dit que tout va bien là présentement, est-ce que ça c'est de la propagande ou c'est de la vérité selon vous?
Ben, la Chine a eu aussi des flambées de COVID-19 récemment à Pékin et toujours à risque à ce que ça arrive. Donc voilà, la Chine a l'expérience de Wuhan au début de cette pandémie où ils ont eu affaire à une apparition d'un virus nouveau et où ils ont dû prendre des mesures restrictives. Ceci dit, même si les chiffres sont assez bas en Chine, ils ne sont pas à l'abri et ils peuvent avoir des flambées de virus comme on voit dans d'autres pays aussi.
Les croyez-vous, ces chiffres-là de Chinois?
Nous, on reçoit les chiffres de tous les pays du monde. On sait que tous les pays du monde ont du mal à vraiment nous donner des chiffres exacts et souvent, comme avec toutes les maladies, et ces chiffres ne sont pas toujours exacts, mais ce qu'on voit, les tendances, et je crois que les pays qui nous communiquent les informations nous donnent une bonne image des tendances.
Très bien. Tariq Jazarevic, porte-parole francophone de l'Organisation mondiale de la santé, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.